Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette au micro pour les 30 prochaines minutes. C'est l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose une émission qui est dédiée à la technologie au service de la science et de la santé. Tout à l'heure, le chroniqueur Miguel Doucet présente sa revue de presse mensuelle, La santé dans le monde, hein, où on a voulu se prendre un moment pour s'intéresser à tout ce qui se passe un peu ailleurs dans le monde, des initiatives donc internationales en matière de santé. Il sera question, entre autres, d'un don, en fait, du don de Suède, de sang en Suède, ouais, qui est encouragé par l'envoi de SMS personnalisés. C'est une initiative que je trouve particulièrement intéressante. Également, une montre qui détecte les signes avant-coureurs d'une crise d'épilepsie et également un outil d'entraide utilisé entre médecins qui ressemblerait étrangement à Instagram. On en saura davantage tout à l'heure. Et puis, pour le moment, un concept extrêmement novateur nommé la pharmacie 3.0, où l'on utilise des appareils électroniques mobiles pour suivre l'état de santé de patients à distance. C'est une méthode qui pourrait être particulièrement utile pour des gens qui vivent avec des maladies chroniques. En studio avec moi, le premier pharmacien 3.0 du Québec, Roger Simard. Bonjour, Roger Simard.
Bonjour, Marianne.
Vous êtes le premier pharmacien 3.0 du Québec, mais vous pourriez également ressembler à Inspecteur Gadget. Mmh. Vous avez trois bracelets au poignet, deux téléphones intelligents, et il y a aussi dans votre sac à dos d'autres gadgets que vous n'avez pas sortis. C'est votre bébé, ça, ce projet de santé connectée. En ce moment, vous l'expérimentez auprès d'une quarantaine de personnes âgées dans le coin de la Chine, des gens âgés entre 65 et 89 ans. Bon, vous êtes spécialisée en gériatrie. On pourrait penser que d'entrée de jeu, c'est pour ça que vous vous êtes intéressée à cette clientèle. En même temps, on pourrait penser que les personnes âgées sont peut-être moins à l'aise avec les technologies. Pourquoi d'entrée de jeu cette clientèle en particulier?
Ben pour deux raisons. Comme vous l'avez dit, je me spécialise dans le fond en gériatrie, la première raison. La deuxième, c'est que je trouvais particulièrement intéressant de démontrer la faisabilité d'utiliser ces outils-là chez une population pour qui on aurait cru que l'utilisation de ces technologies-là n'était pas nécessairement évidente. Mm-hmm. Donc, je voulais d'une part démontrer que je pouvais les amener à la révolution numérique qu'ils avaient la plupart du temps manquée. Et la deuxième raison, c'était de pouvoir aussi permettre à ces gens-là de m'aider à déterminer si l'utilisation de ces outils-là fonctionnait bien quand on avait comme objectif de mesurer leurs paramètres biométriques.
Mm-hmm. Ça fonctionne comment, la pharmacie 3.0?
En fait, la pharmacie 3.0, c'est, et puis la santé connectée, ce n'est qu'un volet de la pharmacie 3.0 parce que ce concept-là englobe trois grands concepts. En fait, le premier étant la santé connectée, donc l'utilisation de dispositifs de santé connectés pour pouvoir faire la captation de paramètres biométriques comme la tension artérielle, le poids, l'activité physique. Le deuxième concept, c'est l'utilisation d'une démarche qui s'appelle les soins pharmaceutiques, qui est une démarche qui a été développée aux États-Unis par une pharmacienne qui s'appelle Linda Strand et qui a démontré, lorsqu'elle a fait les études en utilisant cette approche-là, que les pharmaciens, quand ils rencontraient les gens qui prenaient plus que 6 médicaments et qui avaient 4 pathologies ou plus, on a démontré qu'ils avaient un impact considérable sur l'utilisation des soins de santé. Et le troisième volet, en fait, de pharmacie 3.0, c'est l'utilisation de la pharmacogénomique ou encore l'utilisation de tests de salive pour pouvoir optimiser la pharmacothérapie en fonction de notre gabarit génétique.
Mm-hmm. Mais dans votre cas, est-ce que vous utilisez simplement les appareils mobiles?
Dans la première phase du projet, c'était effectivement le cas. On a utilisé des appareils mobiles, donc des iPads dans ce cas-là. Ensuite, on a branché à ces iPads-là par Bluetooth, par le protocole de communication Bluetooth, des tensiomètres, des balances, des glucomètres. et des trackers d'activité, donc un VivoFit et puis un VivoFit.
Ça, c'est le bracelet.
Voilà, hein? Le bracelet qui capte les pas. La raison pour laquelle on les a utilisés, ceux-là, c'est qu'ils avaient la particularité de pouvoir être jumelés à une borne qui se trouve à l'intérieur de la pharmacie ou dans l'aire de réception de la résidence des personnes à la retraite. Et à chaque fois que les gens passent devant la borne, le bracelet ou le podomètre VivoKey transfère les données d'activité physique à cette borne-là, qui par Wi-Fi ensuite transfère les données sur un tableau de bord que le pharmacien peut consulter à sa guise.
Ça fait combien de temps que vous suivez ces à peu près 40 personnes-là?
Ça fait en fait depuis décembre 2014. On a commencé le projet en décembre 2014. La première portion du projet, c'était de remettre à tous les participants. La moitié du groupe recevait une tablette, un iPad. Et la deuxième, avec un tracker d'activité, puis l'autre groupe recevait qu'un tracker d'activité. Alors, on a commencé en décembre 2014. Le projet devait se poursuivre sur une période de 3 mois, mais finalement, personne n'a voulu arrêter. Et on est maintenant en novembre et tout le monde est encore
bien connecté.
Encore, tout à fait.
Bon, alors, vous êtes à même de constater les bienfaits. Est-ce qu'il y a eu des améliorations au niveau de la santé de ces gens-là?
En fait, le projet lui-même n'était pas conçu pour démontrer cet impact-là, parce que c'était démontrer la faisabilité d'utiliser les outils technologiques. Par contre, je dirais que de façon anecdotique, j'ai vu sur les 40 personnes, d'une part, qu'il y en avait quand même un bon nombre qui n'étaient pas aux cibles thérapeutiques, donc qui n'atteignaient pas les cibles que normalement on devrait viser quand on avait les pathologies qu'ils présentaient. Et qu'on a pu, pendant la durée du projet, d'ailleurs, les amener à ces cibles thérapeutiques-là ou les sensibiliser, tout le moins, à l'importance de les atteindre. L'autre aspect que j'ai pu observer durant le projet, bien que je ne l'ai pas mesuré parce que ce n'est pas un protocole de recherche clinique en tant que tel, c'est que ça a un aspect motivationnel assez intéressant d'utiliser ces technologies-là, parce qu'on parle de personnes qui, durant toute leur vie, n'avaient soit jamais utilisé un ordinateur ou une tablette, et qui, puis du jour au lendemain, en fait, se sont retrouvés à utiliser un outil moderne, un outil qui est utilisé par leurs enfants, leurs petits-enfants, qui leur a permis de commencer à utiliser des outils comme les réseaux sociaux pour contacter ou communiquer avec leur famille ou leurs amis. Et ça, en soi, a été pour moi une grande révélation, parce que je me suis rendu compte que ces gens-là avaient été laissés de côté, justement, par la révolution numérique, et que ce projet-là, en fait, avait, je pense, un bénéfice additionnel en leur permettant de pouvoir les utiliser. Puis c'est intéressant parce que cette semaine, je faisais justement avec une étudiante qui travaille pour moi puis qui fait le support justement là, au niveau des personnes âgées pour l'utilisation de toutes les fonctionnalités du iPad, pas nécessairement celles de la santé. J'ai réalisé que de ceux qui faisaient partie du groupe B, c'est-à-dire qui avaient reçu seulement qu'un tracker d'activité, la moitié soit se sont achetés un iPad ou ont reçu un iPad en cadeau. Donc ça a eu un effet d'entraînement. Et maintenant, ces gens-là participent aussi à l'ère numérique.
L'effet d'entraînement est également créé parce que vous participez également au projet, ouais. Roger Simard. Donc, ils peuvent voir en vous, bon, est-ce qu'il a fait suffisamment de pas aujourd'hui? Est-ce qu'il a été actif? Ah, alors, j'imagine que ça amène l'espèce de compétition saine, bien sûr, de dire, ah, moi, je vais en faire plus que lui.
Oui, tout à fait. En fait, je dirais que présentement, j'ai 2275 pas, ce qui est tout à fait...
pas suffisant.
Pas suffisant, on effectivement. Non, et là, je suis en studio, puis ce matin, j'étais en réunion, et c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de pas. Donc, c'est sûr que ce soir, je vais me faire taper dessus par mes participants. Mais le grand... en fait, je vous dirais qu'une des choses aussi qui m'a frappé par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui démontrent que les gens qui achètent des trackers d'activité ou qui reçoivent en cadeau des bracelets ou des podomètres les utilisent durant une période qui varie entre 3 et 6 mois. Et après cette période-là, ces gens-là les mettent au rancard. Et ce que j'ai trouvé d'intéressant, quand une personne comme moi, qui est un professionnel de la santé, dans le fond, participait au projet avec eux, ça a un effet d'entraînement qui persiste. Et c'est un des... la beauté de ce projet-là aussi, c'est que ça nous donne beaucoup d'idées de choses qu'on va vouloir mesurer
des
dans le futur.
Les possibilités sont infinies.
Exactement, infinies, en fait. On peut... Et on pense maintenant faire un protocole, par exemple, pour démontrer l'effet psychologique, en fait, de ce programme-là. On est en train de travailler sur un protocole pour déterminer si les personnes qui sont, par exemple, atteintes d'insuffisance cardiaque et qui sont à risque de développer une décompensation quand ils accumulent trop de liquide, bien, si on a une balance connectée à la maison, ces gens-là, quand ils se pèsent, puis qu'on voit immédiatement leur poids augmenter de façon trop rapide, bon, on peut leur téléphoner, leur dire de prendre, de doubler la dose de leur diurétique, et puis comme ça, bien, on peut espérer réduire le nombre d'hospitalisations. Donc, des protocoles comme ça, il va s'en faire, il s'en fait déjà à travers le monde d'une façon inouïe, et je pense que nous, bien, ici, on a la possibilité maintenant de travailler dans ce sens-là.
Si la santé s'améliore, Roger, c'est souvent parce que les habitudes de vie se modifient. J'imagine que c'est d'entrée de jeu ce que vous avez pu observer avec ce projet-là.
Bien, c'est la chose que je vous dirais que c'est la chose la plus difficile à faire, c'est la modification des habitudes de vie. Si on pouvait trouver la façon de le faire d'une façon systématique, ce serait
et génial. Simple et facile, simple mais et c'est facile. Jamais facile.
C'est ce qui est le plus difficile. Et je pense que ces technologies-là vont nous permettre de commencer à penser pouvoir le faire si les gens sont bien accompagnés. L'accompagnement peut se faire par un appareil, mais il peut se faire aussi par un humain, par l'intermédiaire de l'appareil. Et ce que j'ai trouvé de fascinant dans ce projet-là aussi, c'est que la technologie m'a permis de me rapprocher des gens dans ce projet-là plutôt que de m'en éloigner. Et j'ai trouvé que les appareils mobiles qui ont été développés par les entreprises comme Apple sont tellement conviviaux dans leur utilisation que c'est possible de montrer à quelqu'un qui n'a jamais utilisé un outil comme celui-là de sa vie, de l'utiliser après quelques mois. Et je vous dirais que la plus grande difficulté, de toute façon, chez ces gens-là, c'était pas de comprendre, c'était d'avoir peur de ce que les gens allaient penser d'eux, un, et deux, ils avaient peur de les briser.
Oui.
Il avait peur de le briser. Puis
mais nous aussi.
Exactement.
Ça coûte tellement cher.
Oui. Puis par contre, les enfants de 3, 4, 5 ans jouent avec ces appareils-là presque tous les jours. Puis ils sont quand même assez résistants. Donc, il n'y a aucun appareil chez tous les participants. Il n'y a personne qui a brisé son iPad. Il y en a seulement un ou deux qui ont réussi à les verrouiller parce qu'ils ne se souvenaient pas de leur code d'entrée. Mais sinon, ça s'est très bien déroulé.
On a parlé de santé physique, on a parlé d'inclusion sociale, mais tout ça, ce dont vous parlez par rapport à l'apprentissage des technologies, ça me fait penser à la santé cognitive également. Ça aussi, c'est probablement un impact assez majeur.
Oui, en fait, il y a des études qui démontrent que l'utilisation des appareils qui offrent des possibilités de connexion sur les technologies de l'information ralentissent le déclin cognitif. Donc, parce qu'on apprend quelque chose de nouveau, ça nous force des fois à être un peu plus curieux. Les gens qui avaient cessé de lire les journaux recommencent à le faire en utilisant leur tablette. Donc, il y a des jeux maintenant sérieux que les gens utilisent sur les appareils mobiles qui leur permettent de garder leur cerveau à l'affût. Le cerveau est presque un muscle. En fait, il faut qu'il soit exercé, puis ces appareils-là permettent de le faire d'une façon régulière. Donc, il est fort à parier que dans les années qui viennent, on va faire beaucoup d'études pour démontrer l'impact cognitif de l'utilisation de ces appareils-là. Chez les gens qui sont atteints de Parkinson aussi, par exemple, de démence. Maintenant, il y a des algorithmes aussi. C'est pas tellement nécessairement l'appareil qui est important, mais les algorithmes qu'on utilise nous permettent de déterminer, par exemple, en utilisant notre téléphone, la façon dont on l'utilise, le nombre de textos qu'on envoie, le type de mots qu'on met dans nos textos, le nombre de pas qu'on fait par jour. Quand tout ça est mis dans ce bouillon d'algorithmes-là, on peut déterminer si la personne est moins déprimée, plus déprimée ou aussi déprimée qu'elle était la journée d'avant. Donc, ce sont des outils qui sont appelés à jouer un rôle de plus en plus important dans la prévention puis dans la sauvegarde de la santé.
Maintenant, la question plate, j'en parlais tout à l'heure, ça coûte cher.
Ouais.
Qui paye pour ça? Est-ce que les coûts que ça engendre vont, à vous entendre, j'imagine, mais vont compenser les résultats qu'on pourrait obtenir?
Ça, c'est ce qu'il va falloir de démontrer. En fait, il y a des initiatives, par exemple, au Japon, le gouvernement, avec Apple et IBM, ont décidé de donner 4,5 millions d'iPads à des personnes âgées à la retraite. Et ce sont les postiers qui se promènent, en fait, de maison à maison avec des dispositifs de santé connectés pour faire la captation des paramètres biométriques. Alors, si eux ont décidé de le faire de cette façon-là, c'est qu'ils y retrouvent un bénéfice certain en termes de prévention puis de diminution de l'isolation sociale. Donc, il y a plusieurs méthodes aussi d'utilisation de ces technologies-là qui va faire en sorte que nous, par exemple, en pharmacie, on pourrait très bien penser chez quelqu'un qui n'a ni Wi-Fi ni appareil de santé connecté, apporter ces appareils-là avec nous pour faire la captation biométrique. Il y a des appareils maintenant portatifs qu'on peut utiliser qui procurent du Wi-Fi à n'importe quel appareil mobile qui ne l'est pas. qui n'en a pas. Et donc, il y a des façons économiques de faire en sorte qu'on puisse suivre ces gens-là d'une façon adéquate.
Oui.
Donc.
En même temps, ça désengorge les systèmes de santé, moins de visites chez le médecin. On sait que ça coûte cher, une visite chez le médecin. Mmh. Donc, on pourrait aller chercher ces sous-là ailleurs.
Exact. Il y a toute une réflexion à faire sur la façon présentement dont on rémunère les professionnels de la santé. Pour s'assurer, d'une part, qu'on puisse avoir des données sur l'état de santé de la population qui a besoin d'en avoir. Et l'autre, c'est de s'assurer qu'on puisse responsabiliser le plus possible les personnes qui sont atteintes de pathologies chroniques. Parce que les études ont démontré que quand les gens sont responsables de leur traitement et quand les gens connaissent leur cible thérapeutique, ils sont beaucoup mieux, ils sont beaucoup plus susceptibles de les atteindre, ces cibles-là, que lorsqu'on les prend en charge complètement, qu'on ne leur donne aucune information et qu'on ne leur donne pas, en fait, tous les outils pour pouvoir les atteindre, ces objectifs-là. Donc, moi, je pense qu'à terme, puis je donne toujours l'exemple de mon ami Eric Topol aux États-Unis, qui, lui, a cessé de porter un stéthoscope depuis 8 ans, parce que pour lui, le stéthoscope est un outil désuet. Il utilise maintenant un appareil qui lui permet de faire des échocardiographies dans son bureau. Il a éliminé peut-être des 200 à 300 échocardiographies inutiles dans une année à des coûts faramineux. Alors, c'est sûr que le système tel qu'il est programmé aujourd'hui fait en sorte que c'est payant de faire des échocardiographies inutiles. Mais le jour où ça ne le sera plus, ben peut-être qu'on va en faire moins puis qu'on va utiliser ces argents-là pour faire du meilleur suivi.
Mais au même titre que ce changement d'habitude-là doit, dans certains cas, modifier la prise de médication de vos clients, de vos patients, réduire même. Donc, pour vous, d'une part, il y a peut-être moins de revenus, mais à ce que je peux comprendre, Roger Simard, ça ne vous dérange pas, ça?
Ben moi, en fait, je pense que le modèle d'affaires de la pharmacie doit changer de toute façon, parce que le modèle qui est basé sur la distribution pure et dure de médicaments achève. Je pense que le pharmacien doit être payé pour le plus possible, en tout cas pour les activités cognitives qu'il peut apporter à la population. Ça en fait partie. Je pense que je porte un bracelet aujourd'hui qui mesure la variabilité de mon pouls ainsi que la température de ma peau. Ça me permet, ce bracelet-là, de déterminer si quelqu'un, par exemple, qui est hypertendu, a pris son médicament dans la journée ou pas. Et encore, si ce médicament-là devrait être pris le matin, le soir, et l'efficacité de ce médicament-là sur les valeurs de tension artérielle. Donc, pour moi, c'est clair qu'on s'en va dans une direction où est-ce qu'on doit utiliser plus de ces outils-là que moins. Et pour moi, c'est évident, comme ça l'était quand j'ai lancé la première entreprise que j'ai créée. C'était une entreprise qui basait tout son modèle d'affaires sur l'avènement de l'Internet. Les gens me disaient à l'époque que l'Internet était une mode et que ça allait passer.
On devait penser que vous étiez tout un hurluberlu.
Oui, c'est ce qu'on m'avait dit en France la première fois où je suis allé. Puis maintenant, les gens me disent que la santé connectée, on ne sait pas, ça va coûter des sous, etc. Moi, je pense que dans 5 ans, on n'aura pas le choix que de s'assurer que tous les gens qui ont des pathologies chroniques soient suivis de façon adéquate en utilisant des outils qui sont hyper faciles à utiliser.
Maintenant, ce projet-là il est implanté dans 15 pharmacies, je pense.
Ouais.
On se rend compte que déjà, ça fait des bébés, toujours personnes âgées, mais également, ça pourrait s'adresser à d'autres types de clientèle.
Oui. En fait, le projet pilote s'adressait strictement à des personnes de 65 à 89 ans pour des raisons de démonstration de la technologie. La deuxième phase du projet, qui se déroule présentement dans 15 pharmacies à travers le Québec, cette phase-là se fait avec 40 personnes par pharmacie qui présentent 3 pathologies, l'hypertension, l'hypercholestérolémie et le diabète, ce qu'on appelle communément le syndrome métabolique. Donc, ça s'adresse maintenant à des gens de n'importe quel âge, mais qui présentent ces 3 pathologies-là. L'idée ici, c'est de permettre aux pharmaciens de démontrer l'impact qu'il a sur l'utilisation des soins de santé, parce que la loi 41 qui vient d'être votée au Parlement de l'Assemblée nationale permet aux pharmaciens de faire des suivis et des ajustements thérapeutiques chez cette population-là.
Une autre façon encore d'exercer ce métier qu'est pharmacien. Merci beaucoup, Roger Simard. C'était vraiment très intéressant et ça humanise un petit peu aussi là, tout ce qu'il y a derrière cette technologie-là et ces gadgets-là. C'est un plaisir de vous rencontrer.
C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@vusezvoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Salut Miguel Loucet.
Bonjour Marianne.
On continue avec ce grand sujet qui est technologie et santé. Et vous nous avez trouvé des initiatives un petit peu partout à travers le monde qui mettent de l'avant ces outils-là technologiques. Pour débuter, un bracelet.
Oui, un bracelet spécial, une montre spéciale. Mais je viens de voir et de croiser votre premier invité, Roger Simard.
Il y en a quatre, lui.
Moi, je n'ai pas de montre, je n'ai pas de bracelet. Mais il existe une montre spéciale pour les épileptiques. Et c'est Roselyne Picard du Massachusetts Institute of Technology qui a collaboré à cette conception de cette montre assez spéciale. Elle dit que ça permet donc les risques de mort subite sont considérablement réduits si on s'occupe de la personne pendant la crise épileptique. Mm-hmm. Et c'est pourquoi? Parce que cette montre-là, la montre intelligente Embrace, elle mesure l'activité électrique à la surface de la peau et détecte les signes avant-coureurs d'une crise. Et cette montre-là est reliée à une personne, j'imagine, de votre choix, un membre de la famille ou un ami proche, qui fait en sorte que si l'activité électrique à la surface de la peau, on disait, est enrayée, bien, il y a un message qui est aussitôt envoyé aux membres de l'entourage de la personne malade.
Donc, ça aide la personne épileptique, mais également ses proches, sa famille, à être au courant de son état de santé.
Exactement, et on peut s'occuper de la personne le plus rapidement possible.
Oui, et comme ça, ça amenuise là, les impacts, là, évidemment, sur le bien-être de la personne. Maintenant, on poursuit avec... Quelle est cette deuxième initiative? Ah oui, Instagram, une espèce d'Instagram pour les médecins.
Un Instagram, c'est aux États-Unis. Ça s'appelle Figure One. C'est une application qui se retrouve sur les téléphones intelligents. Les médecins américains utilisent énormément cette application-là pour s'envoyer et échanger. Donc, ouais. Sur des patients, des cas où ils ont des doutes ou du moins des cas plus rares. Alors, ils vont pouvoir débattre, échanger, s'envoyer des photos. Alors, on parle d'une application où on peut voir des choses assez intenses, là.
Oui, c'est pas pour tous les cœurs, là. C'est-à-dire qu'il faut être fait fort, là.
Cœur sensible, s'abstenir. C'est ouvert à tous.
Oui.
Alors, on peut voir des photos, des petits boutons, mais c'est qui les services qui utilisent ça? Bien, il y a la pédiatrie, les maladies infectieuses, la dermatologie ou encore la cardiologie. Alors, on voit que c'est des thèmes aussi très précis. On peut aller voir...
Mais pas publier, hein?
Mais publier, exactement, c'est des fois être
un
membre
soignant.
Un
professionnel de la santé.
Exactement.
Voilà.
Et c'est des photos, il y a certaines règles. Donc, il y a un code de déontologie. Alors, on ne peut pas voir le patient. Alors, ce sont des photos où vraiment où on voit le cas. Et le patient doit ou lui aussi signer une dérogation, comme quoi il accepte que cette photo de son cas soit publiée sur cette application-là.
Et ça, c'est aux États-Unis, Miguel. En France, les médecins aussi s'entraident, mais par le réseau Twitter.
Par Twitter. Et là encore, il y a un débat. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Pour la France, eh bien, c'est Twitter avec, dièse ou hashtag.
Oui, le mot-clic. Oui. Et c'est quoi encore ce mot-clic-là?
Toc-toc.
Voilà.
ça a l'air presque d'un conte pour enfants. Mais non, toc-toc-toc. Et là, encore là, ils vont s'envoyer des conseils. Ils vont s'envoyer une question, un autre va répondre. On va s'envoyer aussi des photos. Alors, les médecins se sentent parfois seuls. Alors, c'est vraiment la raison pour laquelle, face à un patient ou à un cas, on a besoin d'aide ou un deuxième avis, hein? Nous-mêmes, parfois, on entend oui. des cas qu'il y a un client qui cherche un deuxième avis d'un médecin, mais là, ça permet ça, de voir...
Mais surtout pour des cas atypiques, hein, parce que, comme je le lisais, c'est pas commun, là. C'est pas tous les jours qu'on a des cas un petit peu plus rares. Donc, dans ces moments-là, on aurait besoin d'aller consulter. Et je pense, bon, j'imagine qu'en France, ça pourrait être semblable. Ici, nos médecins au Québec sont parfois très isolés, en oui. région éloignée.
En plus.
Qu'il n'y a pas d'autres spécialistes nécessairement autour d'eux, mais ça peut être une façon de sentir là, qu'il y a d'autres collègues autour.
Et ça permet justement d'échanger, mais aussi d'amener un intérêt sur un cas isolé aussi. Oui. Alors, mais encore là, il y a le code de déontologie en France est différent et ça crée une certaine polémique. Alors, on cherche à trouver aussi des alternatives. Oui. Et pour Twitter, bien sûr, les médecins n'utilisent pas leur nom. Alors, ils utilisent aussi des pseudonymes. Alors, ils sont aussi à la recherche d'une autre façon de pouvoir s'entraider et se soutenir entre eux.
Maintenant, une initiative de la Suède que je trouve particulièrement intéressante.
On tombe en amour avec cette idée-là. Hein?
Oui.
Ah, vraiment, c'est la Suède. Comme nous au Québec ou au Canada, le déclin du nombre de donneurs de sang, ils ont trouvé, je crois, l'excellente idée, c'est d'envoyer des textos, des SMS personnalisés à tous les donneurs. Alors, vous faites un don de sang et peu de temps après, vous allez recevoir un texto qui vous dit « Merci d'avoir donné votre sang », mais plus tard, vous allez en recevoir un autre où le sang va être éventuellement donné à un patient et on va vous informer que votre sang a été utilisé. Et il y a Carolina Blom-Wiberg, j'espère que je dis son nom comme il faut, mais de toute façon, elle ne sait pas, elle est en Suède. Hein?
À Stockholm.
Stockholm, et justement, elle est responsable de la communication des services de transfusion sanguine de Stockholm et qui dit qu'ils essayent toujours constamment de développer de nouveaux moyens pour souligner l'importance des donateurs. Oui. Et ça a vraiment des répercussions puisque les donateurs sont favorables et ont accueilli avec reconnaissance.
Ben oui, c'est un petit geste tout simple. Et là, on voit les impacts d'une façon extrêmement concrète. Ça doit être formidable. Très rapidement, Miguel, Internet, les réseaux sociaux qui pourraient favoriser les ITS en quelques secondes?
En quelques secondes, c'est ça. Aux États-Unis, on a fait des recherches au Minnesota et à New York. Et on s'est rendu compte que des programmes comme Craigslist ou
c'est
Tinder...
C'est un peu de rencontre, là, voilà, de ça, géolocalisation pour rencontrer des gens.
Eh bien, on s'est rendu compte qu'une fois implanté dans une ville, on pouvait remarquer une accélération VIH ou des ITSS de 16 % au cours de l'année suivante, ce qui est énorme. Et ce qui m'amène à parler aussi ici, juste pour dire qu'il y a une hausse, entre autres, chez les gens de 55 ans et plus. Alors, selon l'équipe de Régent Thomas de la clinique L'Actuelle à Montréal, on considère les personnes très actives de faire un dépistage aux 3 mois.
Merci beaucoup, Miguel, pour ces initiatives en santé un petit peu partout dans le monde. Technologie et santé aujourd'hui, c'est l'avenir, mesdames et messieurs. J'espère que vous êtes connectés. Merci, Jean-Sébastien. C'est Marianne Paquette. On se retrouve demain, 14 h. Portez-vous bien. Bye-bye.